L'ombre portée de Bourdelle. Émission mensuelle dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Émile-Antoine Bourdelle, octobre 2011. La sculpture et Bourdelle aujourd'hui, suite à notre précédente émission. Remercier CFM de nous accueillir toujours avec plaisir. La présence d'Anne-Marie Weber, sculpteur, membre de l'espace Bourdelle.
Bonjour.
Serge Martin-Robin, sculpteur, peintre, auteur, compositeur, interprète, que les auditeurs de CFM connaissent bien.
Bonjour.
Et enfin, Christian Drinquier, sculpteur et fondateur de l'espace Bourdelle Sculpture. Deuxième volet de Bourdelle et la sculpture moderne, nous allons évoquer la postérité de Bourdelle à travers quelques figures de la modernité, Brancusi, Picasso, Zadkine et jusqu'à Moore. Mais auparavant, je voudrais dédier cette émission à Pierre Barousse, qui vient de nous quitter, ancien conservateur du musée Ingres jusque dans les années 95. Pierre Barousse a été particulièrement attaché à la figure de et à l'œuvre de Bourdelle, dont il avait une lecture très personnelle. Nous lui devons des expositions pertinentes autour de la sculpture, et dont une en 1974, dont il fut le premier rassemblé au musée Ingres autour des œuvres de Bourdelle, la plupart des sculpteurs référents de la modernité que nous avons cités précédemment. Et sous le titre déjà évocateur en 1974, Bourdelle et la sculpture moderne. Pierre Barousse fut membre de l'espace Bourdelle Sculpture pendant des années. Esprit curieux et libre, il encouragea avec intérêt et finesse nos orientations. Je le remercie. Alors, la modernité. Qu'est-ce qu'on entend par modernité? Chez nous, on dirait la modernité Kezako. En introduction, je vous propose cette superbe proposition de Baudelaire, lue par Anne-Marie Weber.
La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art. Et l'autre moitié, c'est l'éternel et l'immuable.
Cette période de l'histoire couvre sensiblement un siècle, de la moitié du XIXe siècle jusqu'aux années 60-70 du XXe siècle.
Les sources et les éléments déclenchants de cette modernité, on peut d'abord les trouver dans l'épuisement d'un art conventionnel, l'art imposé par les académies, par l'Académie des Beaux-Arts et par le salon annuel, où on arrivait par les thèmes qui étaient imposés, c'est-à-dire l'histoire gréco-romaine et la Bible, on a fini par raconter des petites histoires, des petites anecdotes à l'intérieur de la grande histoire, et les œuvres elles-mêmes finissaient par ressembler, ce qu'avait dit Christian la dernière fois, à des cadavres. Il faut aussi noter qu'il y avait le monde qui se transformait. Nous étions en pleine révolution industrielle à la dernière moitié du XIXe siècle. Et il n'est qu'à voir par exemple les impressionnistes, qui semblent presque être des écologistes, qui petit à petit quittent Paris pour essayer de retrouver encore les derniers restes d'une nature immaculée, et qui vont aller de plus en plus loin, pour quitter la ville grise, jusqu'à Giverny pour Monet, jusqu'à Arles pour Van Gogh, jusqu'à Cagnes pour Renoir, et même jusqu'en Polynésie pour Gauguin. Bon, la transformation de ce monde, ça va être aussi une transformation au niveau des techniques et des moyens qu'on va avoir, par exemple, les sculpteurs. Donc on verra ça tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a aussi le côté autonome de l'artiste. L'artiste, de plus en plus, se détache, bien sûr, des beaux-arts, ne passe pas par les beaux-arts. Ça a commencé avec Courbet, ça a commencé avec Manet. Hein, et du coup, cette autonomie leur permet plus de liberté. Ils ne s'imposent plus des codes que leur donneraient les beaux-arts. Je pense que maintenant il faudra pas. On va peut-être passer au contenu de la modernité.
Oui. Alors, contenu de la modernité. Il est clair que les transformations que tu viens d'opérer, ce détachement progressif de l'imitation de la nature, hein, qui était jusque-là l'observance dans tous les domaines. On était arrivé à une impasse. Hein, les pompiers, notamment, copie conforme d'une plastique, d'une statuaire réaliste sans contenu. Avec cet épuisement du sens, le glissement vers l'art décoratif, dans tous les domaines, on va tenter de reformuler une problématique. Et l'artiste interroge le monde, il s'interroge. Le contexte historique dont vient de parler Serge lui fournit évidemment des éléments d'appréciation. Alors c'est sûr qu'il faut se replacer dans ce contexte d'une époque où les inventions, les découvertes techniques, en très peu de temps, vont modifier véritablement ce monde. On voit apparaître dans le champ social la photo, le cinéma, la radio, l'électricité en un temps extrêmement réduit, le téléphone, la machine à vapeur, l'industrialisation, l'automobile. En 1905, c'est la relativité restreinte, déjà Einstein. Les découvertes techniques également, Serge y a fait, les techniques, la tour Eiffel. Eiffel, donc l'acier qui arrive, le béton armé également, notamment le théâtre des Champs-Élysées. Et puis la découverte d'un monde protéiforme, c'est la première des mondialisations. Les expositions universelles qui permettent de confronter et notamment la découverte de civilisations et sociétés dites primitives. Les Vénus autantotes, les masques nègres dont Picasso se servira abondamment. Voilà un peu, puis les guerres, des guerres intra-européennes qui ont bouleversé tout de même ce champ. Voilà, donc guerre 70 et puis le bouleversement, première guerre mondiale, la fameuse évidemment et troublante guerre de 14, qui fut un choc à la fois culturel, social, etc., etc.
On verra par la suite à quel point la guerre a marqué les sculpteurs. On va s'éloigner d'une représentation idéalisée de l'être humain, figé, lisse, gracieux, harmonieux, et on va aller vers une expression plus éclatée, qui va traduire ou l'horreur de la guerre, la terreur de la guerre, ou alors des psychologies un peu bousculées de l'artiste qui va s'exprimer à travers la sculpture. Et il va y avoir une grande variété de sculpteurs dont il est impossible de faire un classement. Parce que tout est divers, il y a une effervescence telle. En fait, le XXe siècle, ça sera surtout un siècle pas pictural, mais plus sculptural que pictural. Et les nouvelles formes vont naître, mais grâce aussi à de nouvelles matières. L'artiste, là, Christian parlait de mondialisation, eh bien, il va y avoir... les découvertes se retrouvent un peu partout. Et alors qu'avant, on sculptait plus la pierre, le marbre, le bois, et bien maintenant, on va avoir d'autres matières comme le métal, le béton, l'acier, le verre, le plexiglas, et même, on va utiliser encore plus tard dans le siècle, l'électricité. Et on va introduire aussi quelque chose de complètement immatériel dans la sculpture, c'est le vide qui fait partie de la sculpture. je peux dire peut-être cette citation d'un historien d'art. La sculpture dépasse les notions de bloc, de taille et de modelage, privilégie tous les matériaux, de l'objet au déchet, des métaux aux résines, des textiles à l'électricité, à l'immatériau.
Voilà, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire, bien entendu, Anne-Marie Weber, et notamment dans ce travail de synthèse, ce détachement d'un réalisme pour justement une simplification des formes, aller à la recherche de l'essentiel, d'une plastique qui se nourrit d'elle-même, qui peut s'apparenter à un langage musical. La notion de rythme, de ligne mélodique, de silence. Anne-Marie vient de parler de vide. Et en effet, le silence en musique peut s'apparenter au vide en sculpture. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant, parce que la validité du vide, du creux en équivalence avec la bosse, on va le retrouver chez des sculpteurs comme Zadkine, qui vont inverser les propositions. Déjà Bourdelle, nous le savons, avec le monument de 70, a initié cette validité du vide, au même le vide a autant de valeur que le plein. Et avec l'Héraclès Archer, on va voir que là, le virtuel, le vide, c'est les lignes de force qui vont emporter la sculpture vers d'autres lieux.
Oui, je voulais rebondir un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a modification de rapport avec le sujet. Jusqu'à maintenant, avec l'art dit académique, le sujet c'était l'homme et c'était l'histoire. Là, ça devient de beaucoup plus essentiel. On l'a vu avec simplement la recherche de ces sculpteurs, parce que je mets par exemple Gauguin comme sculpteur. Ils vont aller vers des arts beaucoup plus anciens et beaucoup plus proches de l'âme humaine. Bon, par exemple, Gauguin ira vers l'art polynésien, Picasso vers l'art roman catalan et vers l'art nègre, les surréalistes iront vers l'art océanien, Moore ira vers l'art aztèque, pour essayer de retrouver des valeurs complètement fondamentales. Et c'est pour ça que, bien sûr, on va aussi retrouver des matériaux aussi fondamentaux. Il n'y avait que le marbre, à la fin du 19e siècle, il n'y avait que le marbre qui était le matériau noble, et on ne pouvait pas passer à côté. Même le bois avait été négligé. C'est Gauguin qui va remettre en place le bois dans l'univers de la sculpture. Puis ensuite, bien sûr, on en a parlé, on va avoir le métal, les résines, le plastique, etc. Bon, si vous voulez aussi, en arrivant dans le XXe siècle, l'artiste va être en contact avec d'autres artistes et non plus avec une école des beaux-arts, et ils vont se créer des liens et en même temps des connivences, mais aussi des rivalités, ce qui va faire qu'il va y avoir une notion de progrès qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Ça s'était figé.
La notion de nouveauté, en effet, liée à cette idée de progrès est très importante, parce que dans la société elle-même, il y avait là une valeur essentielle. On croyait au progrès technique, mais le progrès humain. Alors il y a eu de grosses déflagrations. Tout à l'heure, je parlais de la guerre de 14-18 qui a été un assommoir, je dirais, et en réaction, en effet, comme Anne-Marie le signalait tout à l'heure, l'individualisme va se former au détriment d'écoles, en effet, malgré que sur le plan plastique, on va voir apparaître des mouvements, ce ne sont plus des écoles, mais des mouvements comme le cubisme, par exemple. Transformisme dans les pays de l'Est, etc. Et c'est vrai que cette prise en charge, je dirais, de l'âme humaine, du destin, par l'artiste individuel, est quelque chose de tout nouveau. Et c'est clair que, comme Bourdelle disait, l'art est transformation, cette société en pleine transformation est à la fois exaltée par justement des découvertes, des nouveautés, tout ce qui peut, alors tout se joue tant sur le plan technique que plastique, hein, que d'engagement. La notion d'artiste engagé, hein, date de ces époques, hein, des années 25-30.
Dans aussi les nouveautés qui se mettent en place, il y a aussi des notions qui sont propres à la sculpture, à savoir la notion de temps et d'espace, qui se modifie. Quand je parlais du vide comme partie intégrante d'une sculpture, c'était aussi une façon de faire passer l'espace, la lumière, dans la sculpture elle-même, qui n'a plus la place qu'elle pouvait avoir dans les temps plus précédents. Les modernes vont avoir aussi à résoudre un problème par rapport au mouvement. La notion de mouvement avait déjà été, et bien sûr, étudiée et traduite. Mais c'était plus dans le comme un instantané de gestes qui était fixé, hein, dans la sculpture. Alors que là, on va aller jusqu'à l'art cinétique, c'est-à-dire la sculpture va bouger elle-même dans l'espace. Quant au temps, eh bien, cette notion de temps, on va aussi la retrouver traitée de diverses façons, mais jusqu'à des moyens qui sont un petit peu amusants, c'est-à-dire le passage du temps par exemple, l'introduction de matières végétales, vivantes, qui vont dépérir, donc, pour marquer le temps qui passe.
Pour parler de temps, justement, j'ai bien souligné, dans un petit bouquin, j'ai écrit un film, j'ai fait, Bourdelle le premier, hein, a donné cette notion de temps, notamment, je pense, au mourant du monument, hein, de 70, qui est une sorte de ralenti, hein, cinématographique, hein, où ce mourant, avec ce bras, il tombe, il n'arrête pas de tomber. Et donc c'est une magie, je dirais presque, hein, que de transformer l'immobilité, hein, dans une virtualité temporelle, mais que l'on perçoit exactement comme aussi la flèche de l'Héraclès, hein, qui n'existe pas, mais que tout le monde voit. Hein, et donc là aussi, la notion de temps, hein, est introduite déjà par Bourdel, hein, qui est au carrefour, comme nous le savons, de la modernité.
Oui, alors là, on parle de temps, mais il faut noter aussi qu'il y a une émulation et une concurrence avec les nouvelles techniques, en particulier avec les nouveaux arts, comme la photographie et le cinématographe, qui fait que ben, par exemple, les fauves, on travaillait que sur la couleur, parce qu'à l'époque la photo n'était pas encore en couleur. Les cubistes ont travaillé sur l'anti-perspective, hein, pour concurrencer la photo et s'en détacher. Et là, on parle de temps, c'est le cinématographe qui pousse les sculpteurs vers le mouvement.
Oui, là, c'est évident que qui connaît Calder, qui ne connaît pas Calder, hein, Calder arrive bien plus tard, et c'est un peu, hein, dans cette perspective, alors lui, que ce soit les stables ou les mobiles, hein, il y a toujours, alors là, une alliance, justement, ce que disait tout à l'heure Anne-Marie, c'est-à-dire le passage de la lumière, hein, la construction extrêmement géométrisée, mais à la fois d'une grande légèreté, et où la sculpture se transforme en permanence. Il y a une vision transformiste, je dirais, ouais, de la sculpture.
Avec peut-être une notion nouvelle, c'est-à-dire l'introduction du jeu, de l'humour, de la poésie.
Aussi.
Dans la sculpture, qui n'existait évidemment pas dans les temps plus classiques.
Quoique.
Oui, mais moins répandu. Parce
oui,
qu'on osait moins.
Dans la
moins,
caricature.
Parce qu'on osait moins. Oui. Ah oui, bien sûr, dans la caricature. Mais là, les fans et sculpteurs osaient moins. Là, vraiment, il y a une liberté. Et pour parler de liberté, d'ailleurs, et puisqu'on parle de Bourdel, eh bien, on peut dire que Bourdel, qui a été un professeur, un passeur, était un très moderne, un moderne dans son temps, puisqu'il disait « Je suis un Socrate qui vous accouche de votre âme », disait-il à ses élèves. Et il les poussait à être à être eux-mêmes, à réaliser leurs idées. À ne pas. Et donc tous ces gens très connus et importants qui sont devenus de grands sculpteurs, Zadkine, Richier, Giacometti, tous ces gens-là n'ont pas fait de bordel d'ailleurs. Hein. Ils s'en sont éloignés, ils ont trouvé leur propre chemin, et pour chacun, tous différents.
Il n'en a pas fait des disciples.
Non. Pas du tout, pas du tout.
Alors on pourrait maintenant alimenter notre propos par... la traduction de quelques sculpteurs référents, très différents aussi. On pourrait, pour moi, la modernité commence avant Brancusi, qui est quand même... alors, je signale justement que Brancusi se déplace de sa Roumanie natale vers Paris, comme Picasso va se déplacer vers Paris aussi. C'est pas inintéressant de savoir. Il y a Pompon, qui a simplifié. Brancusi, l'oiseau dans l'espace. Henri Matisse, peut-être Serge pourra en parler un peu plus précisément. Picasso, qui est déjà là en 1905. Mayol, bien entendu. Modigliani, qui a aussi fait de la sculpture, notamment des masques. D'autres, peut-être moins connus du grand public, mais que je trouve importants. Antoine Peffner, qui était mathématicien et ingénieur, et qui faisait quasiment des figures mathématiques, et qui va dans le sens d'ailleurs de Calder, dans la formulation, Laurence, Archipenko, Arp, Marcel Duchamp, il faut le citer aussi, puisque il y a là de l'humour également, Zadkine, qui nous est très proche, puisque aux Arcs nous avons un musée Zadkine, et Zadkine, justement, qui a inversé le creux et la bosse. Ouais. Moore, bon, le dernier, je dirais, pas des Mohicans, mais le dernier des grands cités, Serge citait tout à l'heure cette prégnance de l'Amérique du Sud sur ses formes. Calder, Anne-Marie vient de le citer. Alberto Giacometti, qui fut l'élève de Bourdelle. Jean Dubuffet, Germaine Richier, élève de Bourdelle. Et les derniers, on va dire, des modernes, je vais citer César, qui me semble intéressant, Chilida, qui est aussi, et Pomodoro, peut-être un peu moins connu, mais qui travaille dans l'espace du dedans, pour reprendre un peu Michaud.
Bon, je crois que on a cité toute ce florilège de sculpteurs. Il faudrait peut-être qu'on y revienne quand on parlera dans une prochaine émission des techniques et des influences, mais des influences de Bourdelle sur ces gens-là aussi. D'accord ?
Voilà. Oui, il y a tellement à dire que ça pourrait se prolonger dans plusieurs émissions. Alors, c'est pas une conclusion, mais tout d'un coup, je pense aussi que Brancusi, eh bien, il a amené un traitement nouveau de la lumière, pas à travers sa sculpture, mais par le poli, le lisse qui fait que ce miroitement prolonge l'espace.
Voilà. Alors, pour non pas conclure, puisqu'on se donne rendez-vous dans un mois, sensiblement, cette émission sur la modernité nous fait apparaître que les préoccupations des sculpteurs de la modernité recoupent celles de Bourdelle. Dégager le sujet d'un discours préétabli pour le faire apparaître dans toute sa singularité d'espace. Révéler une autonomie plastique avec un vocabulaire propre, une organisation spatiale où forme, matière et énergie se combinent. Pour reprendre Anne-Marie Weber, il faut constater que nombre de sculpteurs contemporains de la modernité furent les élèves de Bourdelle. Je viens de les citer. Aucun n'a fait du Bourdelle, mais ils ont trouvé en Bourdelle un éclaireur et un révélateur de leur propre langage. Et pour la chute, je voudrais citer Bourdelle pour montrer quelqu'un qui était toujours dans une recherche, je dirais, approfondie et qui révèle un peu sa mentalité. Il nous dit ceci dans une lettre à Suarez. La cinquième dimension, la plus inconnue, est justement la plus impérieusement indispensable. Enfin, avant de nous quitter, je voulais vous faire savoir qu'avec Serge Martin Robin, nous allons faire une visite commentée donc autour de Bourdel le dimanche 17 avril à 15h. Et donc rendez-vous aux auditeurs qu'ils en parlent autour d'eux pour cette rencontre dimanche 17, 15h au Musingre. C'était l'ombre portée de Bourdel avec Anne-Marie Belbert, Serge Martin Robin, Christian André Aquier.